Radio Prague, les informations.
Dobrý den, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'écoute de l'actualité tchèque en français sur Radio Prague, une actualité dont voici les principaux titres. Brexit tout d'abord, Andrej Babiš estime suffisant l'accord trouvé à Bruxelles pour le report. À Dubrovnik, Andrej Babiš, toujours lui, représentera la République tchèque au sommet 16+1 entre pays d'Europe centrale et orientale et la Chine. Et puis enfin en football, le Slavia accueille Chelsea ce jeudi soir en Ligue Europa. Le club pragois rêve d'un nouvel exploit. L'accord trouvé dans la nuit de mercredi à jeudi par les 27 à Bruxelles, accord qui prévoit un report du Brexit au 31 octobre prochain est, je cite, « suffisant ». Selon le Premier ministre tchèque, pour que le Royaume-Uni décide de sa sortie de l'Union européenne, le compromis a été compliqué à trouver, a reconnu Andrej Babiš dans son intervention. Le chef du gouvernement tchèque avait proposé que la date du Brexit soit repoussée à la fin mars 2020. À Prague, la majorité des politiciens tchèques ont réagi à cet accord en estimant qu'il s'agissait, je cite, d'une solution raisonnable. Président de la commission en charge des affaires étrangères à la Chambre des députés et ancien ministre des Affaires étrangères, Lubomir Zaoralek considère toutefois l'issue du sommet comme étant mi-figue, mi-raisin. De même, par exemple, que le vice-président du parti pirate, je dirais que c'est comme shooter dans une canette vide qui se trouve sur votre chemin. Rien de plus, a joliment déclaré Lubomir Zaoralek pour justifier son point de vue. C'est par un dîner de gala que débutera ce jeudi soir à Dubrovnik, en Croatie, le très attendu sommet 16+1 qui réunit la Chine et 16 pays d'Europe centrale et orientale. La République tchèque sera représentée par son Premier ministre Andrej Babiš, un Andrej Babiš qui avant cela s'entretiendra avec son homologue chinois Li Keqiang. Il s'agit du 8e sommet du genre organisé. La Chine a multiplié ses investissements en Europe centrale et orientale ces dernières années. Cette initiative, dite 16+1, s'inscrit dans le cadre du vaste et ambitieux projet de nouvelle route de la soie, une route de la soie dont le président Miloš Zeman avait affirmé, je cite, rêver qu'elle passe par la République tchèque dans un entretien accordé en janvier dernier à l'agence de presse Chine Nouvelle. Et puis la présidente de la Croatie sera reçue au château de Prague par son homologue Miloš Zeman ce jeudi. Figure bien connue du grand public depuis le beau parcours de son pays à la Coupe du Monde de football, Kolinda Grabar-Kitarović rencontrera également les présidents du Sénat et de la Chambre des députés. Au programme des discussions, les relations tchéco-croates, alors que la Croatie reste la destination préférée des vacanciers tchèques, la coopération économique, l'intégration des Balkans de l'Ouest au sein de l'Union européenne, une intégration qui est depuis plusieurs années une des priorités de la diplomatie tchèque, ou encore l'avenir de l'Union européenne, une Union européenne que la Croatie, rappelons-le, présidera au premier semestre 2020. Un mot de football, le Slavia Prague accueille Chelsea en match aller des quarts de finale de la Ligue Europa ce jeudi soir dans son stade d'Eden. Après avoir éliminé les Belges de Genk et les Espagnols du FC Séville lors des deux tours précédents, le club pragois, qui figure à ce stade de la compétition en Coupe d'Europe pour la quatrième fois de son histoire et pour la première fois depuis 19 ans, cherchera à créer un nouvel exploit. Invaincu en Ligue Europa cette saison, les Blues, actuels 3e en Première Ligue, sont toutefois les grands favoris de cette confrontation contre le leader du championnat de République tchèque. Le match retour est programmé à Londres, à Stamford Bridge, jeudi prochain. Météo. Comme je dis, la grisaille reste de mise sur la majeure partie du territoire ce vendredi. Vendredi qui sera le jour de la fête des Julius. En Bohême, les nuages laissent néanmoins percer quelques rayons de soleil dans la matinée. Et ce, avant un week-end annoncé froid et pluvieux. Les températures varient entre 7 et 10 degrés. Quant au soleil, il se lève à 6h13 et se couchera à 19h48. C'est la fin de ce bulletin d'information. Qu'a eu le plaisir de vous présenter Guillaume Narguet. Merci de votre attention. On retrouve maintenant Magdalena Rosinkova. Magdalena qui nous accompagne pour la suite de ce programme. Très bonne écoute. faits et événements en République tchèque.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'écoute de Radio Prague. À la une de l'actualité tchèque figure le remaniement ministériel annoncé par le Premier ministre Andrej Babiš. Nous en parlerons dans un instant. Avant de vous inviter à Litomyšl, le château local fête le 20e anniversaire de son inscription à l'UNESCO. La seconde partie de notre programme est consacrée à l'histoire, plus précisément à l'exil pragois de Joseph Fouché. Très bonne écoute à toutes et à tous. Fin cette semaine des spéculations et des rumeurs autour de changements dans le gouvernement du Premier ministre. Mercredi, Andrej Babiš a annoncé que deux de ses ministres nommés par son parti ANO seront remplacés le 30 avril prochain. Le ministre des Transports et la ministre de l'Industrie et du Commerce, Alexis Rundzweig.
Vladimir Kremlik au transport à la place de Dantyok, Karel Havlicek à l'industrie et au commerce à la place de Marta Novakova. Voilà pour ce petit remaniement ministériel qui n'est pas vraiment une surprise. La presse tchèque avait évoqué ces changements depuis déjà quelques temps. Et c'est après son passage mercredi au château de Prague pour consultation avec le président Zeman que le chef du gouvernement Andrej Babiš a confirmé sa décision.
Le président de la République part bientôt en Chine pour une visite officielle, donc le remaniement sera officiellement entériné le 30 avril. Entre-temps, le chef de l'État va avoir le temps de rencontrer les deux candidats que j'ai proposés pour les deux ministères concernés.
Le ministre des Transports d'Antioche avait déjà annoncé lundi qu'il partait de son plein gré, plus de 4 ans après sa nomination à un poste qui a la réputation d'être compliqué en Tchéquie. Il s'est dit fatigué par les attaques formulées contre sa personne et par le lobbying intensif.
Il y avait certainement une volonté dans le milieu des affaires d'avoir un ministre des Transports affaibli. Cela permet du coup de s'occuper plus tranquillement des appels d'offres publiques, que ce soit dans le domaine informatique ou celui des péages électroniques autoroutiers.
Dantyok est le ministre des Transports qui a tenu le plus longtemps et dans plusieurs gouvernements différents, plus de 4 ans en tout. La presse révèle que le Premier ministre a eu bien du mal à lui trouver un remplaçant, tant ce portefeuille ne fait pas vraiment rêver. Il sera donc finalement remplacé par Vladimir Kremlik, un avocat de formation qui était jusqu'ici fonctionnaire à l'Office du patrimoine public. Le cas de Marta Novakova à l'industrie et au commerce était différent, dans le sens où ce n'est pas elle qui a décidé de partir, mais elle a été remerciée. Sa sortie sur le coût des données mobiles qui serait élevée en raison du comportement des consommateurs tchèques qui préfèrent utiliser le Wi-Fi avait été très critiquée. Plus récemment, plusieurs partis de l'opposition lui ont reproché d'avoir obtempéré suite à la demande de l'ambassadeur chinois réclamant le départ du représentant taïwanais, lors d'une réunion dans son ministère. Pourtant grand adepte de la gestion de l'État comme on gère une entreprise, le chef du gouvernement Andrej Babiš a tenté d'expliquer sa décision de la manière suivante.
J'en ai parlé avec Madame Novakova. Il n'est pas facile de passer du secteur privé à l'administration publique qui fonctionne de façon totalement différente. Elle fonctionnerait peut-être même sans les ministres, mais les ministres sont là pour mettre en œuvre un programme politique. Je ne vais pas m'étendre sur les raisons de son départ, mais je vais dire ici qu'il n'est pas dû au faux pas protocolaire impliquant des diplomates étrangers. Ma décision n'a pas été prise en fonction des critiques entendues.
Karel Havlicek devrait donc officiellement être le prochain ministre de l'Industrie et du Commerce à partir de la fin du mois. Mission impossible pour l'actuel vice-président du Conseil pour la Recherche, le Développement et l'Innovation. Eh bien, c'est en tout cas ce qu'estime jeudi un éditorialiste du quotidien Lidové Noviny. Parce que ce ministère a de très larges attributions qui vont de ces fameuses données mobiles à la numérisation en passant par le charbon et le lithium, sans oublier les travaux d'extension des centrales nucléaires de Dukovany et de Temelin. Fin de citation. En moins de 2 ans, ce n'est en tout cas pas le premier remaniement ministériel du gouvernement d'Andrej Babiš, loin de là. Sur les réseaux sociaux circule à nouveau l'un de ses selfies avec 5 de ses proches quand il faisait campagne avec son célèbre slogan « Anno, ça va aller mieux ». Quatre d'entre eux ne font déjà plus partie de son gouvernement. Seul le ministre de l'Environnement, Richard Brabets, est encore en poste. Cela n'a pas empêché le Premier ministre de constater que le pays se portait économiquement bien et de s'en attribuer le mérite. « Ça va déjà mieux », a-t-il affirmé jeudi, en concluant que ceux qui disent que ça va moins bien sont des menteurs.
Bijou de la Renaissance italienne, le château de Litomichl accueille jusqu'au 22 avril prochain une exposition de création florale. Elle marque le 20e anniversaire de l'inscription du château sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Parallèlement, la petite ville historique de Bohême de l'Est prépare la 61e édition de son traditionnel festival de musique, le Festival Smetana de Litomichl, qui ouvrira ses portes le 13 juin prochain. Les muses parmi les fleurs, tel est donc le titre de l'exposition d'art floral ouverte pendant 15 jours au rez-de-chaussée du château de Litomichl dans ses remarquables salles Renaissance. Elle fait allusion à l'Antiquité et à l'univers du théâtre, comme l'explique notre guide Zdeňka Kalová.
Si nous nous sommes inspirés des muses de l'Antiquité, c'est parce que ce qui est typique pour ce château, ce sont les styles qui se réfèrent à l'Antiquité, c'est-à-dire la Renaissance et l'architecture classique. En plus, la tradition du théâtre est très vivante dans cette ville. Notre château possède un magnifique théâtre baroque de la fin du XVIIIe siècle. L'idée nous est alors venue de consacrer cette exposition temporaire à la fois aux muses de l'Antiquité et aux fleurs. Chaque salle est décorée différemment et chaque salle est aussi dédiée à un domaine différent, au théâtre, à la danse, aux sciences, à la poésie. Toutes les plantes et les fleurs que vous voyez ici, peut-être à l'exception de l'amaryllis, ont été connues à l'époque de la Renaissance. Les créations florales sont composées de roses, de hyets, de lys ou encore de tulipes emportées en Europe centrale grâce à l'empereur Ferdinand Ier.
Une autre exposition présentée actuellement sous les arcades du château de Litomichl est consacrée au plus ancien ballet d'action connu du répertoire français et européen, La fille mal gardée, une œuvre créée à Bordeaux en 1789 et qui figure actuellement au répertoire du Théâtre national de Prague. Pourquoi cette exposition précisément à Litomichl ?
L'histoire de ce ballet est étroitement liée à celle du château de Litomichl. Dans notre théâtre baroque se trouvent quatre peintures à l'huile. Sur ces tableaux, on peut voir le danseur Salvatore Vigano qui a joué le rôle d'Alain dans la première représentation de La fille mal gardée. Il est accompagné de sa femme Maria Medina, elle aussi une danseuse célèbre. Le couple a traversé l'Europe avec ce ballet et les peintures qui se sont conservées dans ce château de Bohême documentent leur tournée. Je pense que c'est un bel exemple de l'héritage européen que nous partageons tous.
Consacré aussi bien à l'opéra qu'à la musique symphonique, le festival Smetana de Litomichl est inauguré chaque année par un concert solennel donné sur la cour du château. Sa 61e édition se déroulera du 13 juin au 7 juillet avec au programme plusieurs œuvres du grand compositeur tchèque Bedřich Smetana, originaire de Litomichl. Place maintenant à l'histoire sur Radio Prague. Joseph Fouché est célèbre pour avoir été le puissant ministre de la police de Napoléon. Sa renommée, il la doit aussi à son action plus que vigoureuse durant la Révolution pour réprimer les insurgés lyonnais et brimer les prêtres de la Nièvre. Ce que l'on sait moins, c'est que Fouché, contraint à l'exil après le retour des Bourbons au pouvoir, a passé deux des dernières années de sa vie à Prague. Pierre Maignan.
Chapitre de l'histoire. Ces longs mois entre l'été 1816 et l'été 1818 ne sont certainement pas les plus heureux de sa vie. Fouché n'en dit pas un mot dans ses mémoires. Une partie de son temps passé à Prague, l'ancienne capitale du royaume de Bohême, il l'aurait d'ailleurs consacré à l'écriture de ce texte autobiographique. C'est ce que raconte l'historien Antoine de Varesquiel, son récent biographe, un extrait.
Il parle sans cesse de ses mémoires, il y travaille, il les achèvera. Ses mémoires sont le serpent de mer de son exil. À Prague, le gouverneur Kolovrat est suffisamment inquiet pour en avertir le directeur de la police de Vienne. L'exilé s'y consacre, précise-t-il dans un rapport, de 6h du matin à 10h du soir.
Le texte ne paraîtra pourtant qu'en 1824, soit après la mort de Fouché, dans une version dont l'authenticité est d'ailleurs discutée. Comment l'expliquer ? Peut-être parce qu'à Prague, l'invité prisonnier de Metternich, l'ancien révolutionnaire devenu l'emblématique ministre de la police de Napoléon, alors âgé de près de 60 ans, pense encore qu'il pourra revenir aux affaires, que son histoire n'est pas terminée. Il se trompe, c'est son quatrième exil, le dernier et le plus cruel, ainsi que le note Stefan Zweig, qui lui a consacré en 1929 l'une de ses célèbres biographies romancées. Fouché, qui semblait être parvenu à retourner habilement sa veste en se mettant au service de Louis XVIII, dont il est 2 mois le ministre de la police en 1815, après la chute de Napoléon et le retour de la monarchie, paie pour une décision prise lors de l'une de ses vies antérieures. Au mois de janvier 1793, il a voté la mort du roi Louis XVI, qui n'est autre que le frère de Louis XVIII. Aussi, le duc d'Otrante, c'est le titre désormais de Fouché, est l'une des victimes de la loi du 16 janvier 1816 qui condamne à l'exil éternel les anciens conventionnels régicides. Le coup est rude. Lors du vote de ce texte, notre homme se trouve à Dresde, où il vient d'être relevé de ses fonctions d'ambassadeur qu'il occupait depuis son renvoi du ministère de la police. Fouché ne compte cependant pas rester longtemps en Saxe, et bien qu'il proclame à qui veut l'entendre qu'on est prêt partout à l'accueillir, c'est vers l'Autriche qu'il se tourne. En 1934, dans la revue française de Prague, l'historien tchèque Novotny développe.
Fouché, en vieux renard qu'il était, avait, dès la fin du mois de février, prié l'Autriche de lui accorder un asile. Il ne reçut de réponse qu'en avril. Metternich lui écrit de Vérone que l'empereur François avait consenti à lui permettre de s'installer dans un des chefs-lieux des provinces de l'Empire. Le chancelier pensait que c'était à Prague que l'exilé pouvait se sentir le plus à son aise. Le conseil de Metternich était plutôt un ordre, rédigé sous une forme très polie.
Fouché et sa famille obéissent donc à cet ordre et s'installent à Prague en juillet 1816. Cela serait beaucoup dire que le duc connaît la ville, mais il y avait déjà passé quelques jours en juillet 1813. Missionné par Napoléon malgré la disgrâce dont il faisait alors l'objet, il avait à l'époque rencontré Metternich. Fouché retrouve à Prague certains compatriotes de sa connaissance, tels que le député régicide Antoine Claire Thibaudeau ou François Durbar. Ironie du sort, les deux hommes doivent leur exil à l'ordonnance du 24 juillet 1815, élaborée par ses propres soins quand il était encore ministre de la police. Voilà qui explique en partie pourquoi Thibaudeau n'est pas tendre dans ses lettres et ses mémoires avec son ancien ami. Antoine de Varesquiel rapporte certains de ses écrits.
À Prague, on n'est pas très enchanté de la présence de cet hôte de qualité qui, du sommet de la puissance, a été précipité à terre. L'aristocratie particulièrement est pleine de froideur avec cet intrus arrivé d'une manière aussi soudaine. Car les nobles de Bohême lisent toujours les journaux français qui, à cette époque précisément, sont pleins des attaques les plus vindicatives et les plus enragées contre ce monsieur Fouché.
Après avoir occupé un logement du côté de la vieille ville, Fouché emménage dans l'une des luxueuses résidences du quartier de Malastrana. Il va à l'opéra, entretient une correspondance nourrie dans toute l'Europe et tente de se faire une place dans la haute société pragoise. Mais sans beaucoup de succès d'après Thibaudeau.
Mon voisin est un objet d'épouvante. On le regarde comme un colosse. C'était lui qui dirigeait toute la France, le peuple, l'armée, l'empereur. Jugez combien il est flatté de cette haute opinion.
Thibaudeau s'amuse de la prétention de Fouché, professeur à l'oratoire dans les années 1780, militant jacobin convaincu au début de la Révolution, à faire valoir ses nouveaux titres de noblesse. Il est arrivé à Prague en sans-culottes et il part en prince, note-t-il. Fouché, qui se plaint de mal maîtriser l'allemand, s'entretient notamment régulièrement avec František Antonín Kolovrát, le comte de Kolovrát, le burgrave suprême de Prague durant la période. En réalité, le gouverneur pragois organise activement la surveillance de l'encombrant Fouché. Des mouches sont recrutées dans son personnel et sa correspondance est ouverte, décryptée et lue. Régulièrement, Kolovrát adresse un rapport à propos des faits et gestes du français au président de la police viennoise, Josef von Sedelnitsky. Pour ne rien arranger, une sale rumeur vient pourrir un peu plus le séjour pragois de Fouché et elle concerne sa seconde épouse, Ernestine de Castellane, la fille d'une illustre famille aristocratique de près de 30 ans sa cadette. Il se dit en effet que le propre fils de Thibaudeau, Adolphe, entretiendrait un commerce licencieux avec elle. Emmanuel de Varesquiel raconte le triste épisode.
À 22 ans, Adolphe Thibaudeau passe pour un très bel homme. Ses visites à Madame Fouché se multiplient et se prolongent un peu plus que le voudraient les usages. À l'évidence, Ernestine aime sa compagnie. A-t-on été plus loin ? De bonnes âmes le feront croire. Tout cela, en tout cas, n'est pas du goût du mari. On le fait savoir à Paris. L'affaire est du genre à réjouir le faubourg Saint-Germain. On sait très bien là-bas que le ridicule peut tuer. On injurie Fouché, on va le calomnier maintenant. Le régicide devient cocu, et certainement pas un cocu magnifique, un vieux cocu amer et décati.
Autrement dit, Fouché boit le calice jusqu'à la lie. Stefan Zweig décrit cette déchéance dans un chapitre au titre éloquent « Chute et fin ».
Celui qui n'était en faveur auprès de tous que parce qu'on le craignait est méprisé de tous depuis qu'on ne le craint plus. Le plus grand des joueurs politiques a perdu la partie. Pendant 25 ans, cet homme souple et insaisissable a toujours échappé au destin qui si souvent le menaça. Maintenant qu'il est définitivement par terre, les coups pleuvent impitoyablement sur lui. À Prague, non seulement l'homme politique, mais encore le particulier qu'il y a en Joseph Fouché subit le plus douloureux des canossas.
Il n'y a plus qu'une solution pour Joseph Fouché, la retraite. Stefan Zweig poursuit.
Ce n'est que maintenant, dans le malheur, qu'il reconnaît toute la profondeur de sa chute et son exil à Prague devient pour lui un enfer. Il sollicite du prince de Metternich l'autorisation de quitter cette ville insupportable et d'en choisir une autre. On le fait attendre, mais enfin Metternich daigne lui permettre de se rendre à Linz. C'est là que se réfugie cet homme déçu, fatigué et humilié devant la haine et les railleries d'un monde qui, autrefois, lui fut soumis.
À Linz, Fouché s'ennuie à mourir et tombe encore davantage dans l'oubli. En 1819, Metternich l'autorise à aller s'installer au bord de l'Adriatique, à Trieste. C'est là que celui qui fut le mitrailleur de Lyon, l'un des tombeurs de Robespierre, l'intrigant du directoire, le modernisateur et l'organisateur de la police de Napoléon, et donc également le malheureux de Prague, s'éteint à la fin de l'année 1820.
C'est déjà la fin, chers amis, de ce programme d'actualité préparé pour vous par la rédaction française de Radio Prague. Magdalena Hrozinková vous remercie de l'avoir suivi. N'oubliez pas que le reste de l'actualité tchèque, c'est au www.radio.cz/fr. N'oubliez pas non plus que vous pouvez nous contacter via Facebook et Twitter. Au revoir, naslyšenou.